toujours un grand bonheur pour moi de revenir ici dans ma maison. Et je voudrais rendre grâce à Dieu pour cette possibilité qu'il me donne, mais aussi dire un grand merci au pasteur Noël Almondé, son épouse, et tous ceux qui partagent avec lui la charge dans la direction. Au frère William, un grand merci de me rappeler ce parcours et merci surtout pour la prière. Seigneur, bénis ces temps et fais-nous du bien. C'est ma prière et le vœu de mon cœur. Au nom de Jésus, amen. J'aimerais nous inviter à lire quatre petits passages, tirés les deux premiers du livre des Genèse et les deux autres tirés de l'épître aux Hébreux. Genèse au chapitre 12, nous lisons du premier au troisième verset. L'Éternel dit à Abram, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Nous lisons aussi Genèse chapitre 22, le verset 15 jusqu'au verset 19. Genèse 22, verset 15 au verset 19. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je les jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme les sables qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils s'élevèrent et s'enlèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Nous lisons Hébreux au chapitre 7 d'abord, versets 9 à 10. Hébreux chapitre 7, versets 9 à 10. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au devant d'Abraham. Et puis enfin, Hébreux chapitre 11, et là nous lisons le seul verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit bizarre sans savoir où il allait. Le Dieu des générations. J'aborderai cet enseignement en quatre petits points. Les premiers points, je l'ai intitulé « Définition et principes sur les générations ». Définition et principes sur les générations. Le deuxième point, c'est « But et raison d'être de cet enseignement ». Le troisième point, les défis de la première génération. Les défis de la première génération. Et puis le dernier point, trois réalités attachées aux générations suivantes. Trois réalités attachées aux générations suivantes. Et quand je parle des générations suivantes, j'ai à cœur toute autre génération après la première. Les mots génération, qui est le mot clé dans cet enseignement aujourd'hui, est un mot qui cache trois idées. La première idée, c'est qu'une génération, c'est un ensemble de personnes qui descendent d'une même origine ou d'un même ancêtre commun. On parle de descendance ou de postérité. Donc, ensemble de personnes qui descendent d'une même origine ou d'un ancêtre commun. La deuxième idée cachée derrière le mot génération, c'est un ensemble de personnes qui vivent à la même époque. Ensemble de personnes qui vivent à la même époque. Et troisième définition du mot génération, c'est laps de temps séparant plusieurs degrés de filiation. Laps de temps séparant plusieurs degrés de filiation. En général, on dit plus ou moins 30 ans, mais d'autre part, d'une moyenne de 25 ans pour une génération. Mais bibliquement parlant, quand on parle des générations, c'est un peu un mélange de toutes ces trois idées que j'ai partagées tout à l'heure. Bibliquement parlant, quand on parle des générations, c'est un ensemble de personnes liées, comme par un cordon ombilical familial, de telle sorte qu'il y a des ascendants et des descendants. Donc un ensemble de personnes liées comme par un cordon ombilical familial. Mais cet ensemble de personnes se transmettent des choses comme héritage. Et mettez entre parenthèses des choses positives, mais aussi quelquefois malheureusement des choses négatives. La première fois que l'on voit ces mots dans la parole de Dieu, c'est dans Genèse au chapitre 7, au verset 1er, lorsque Dieu parle à Noé avant le déluge. Entre dans l'arche, toi et ta maison, car j'ai été vu juste devant moi parmi cette génération. Et là, il a l'idée de contemporain, c'est-à-dire ceux qui partagent avec toi la même époque. Mais aussi la première fois où les mots utilisés dans les sens que nous allons étudier, c'est dans Genèse chapitre 9, au verset 1er, au sortir de l'arche, lorsque Dieu s'adresse à Noé et Dieu dit, c'est ici les signes de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. Et déjà à ce niveau, il y a trois choses comme principe qu'il est bon que vous et moi nous puissions connaître en rapport avec les générations. La première, c'est que les générations ne vivent pas comme des îlots. Les générations ne vivent pas comme des îlots, c'est-à-dire sans contact. Les générations sont liées les unes aux autres, bien que vivant à des époques séparées. Ecclésiaste 1:4 dit « Une génération s'en va et une autre arrive ». La version française courante dit « Une génération passe et une nouvelle lui succède ». Deuxième principe, c'est que des générations, des fois, se côtoient. Et des fois, ils ne se côtoient pas. Mais qui se côtoient ou qui ne se côtoient pas, ils se transmettent toujours des choses. Et j'insiste, comme j'ai dit, des choses positives, mais aussi quelquefois des choses négatives. Dans 1 Rois chapitre 2, au verset 7, la Bible nous parle de l'instant où David est au soir de sa vie. Il est en train de mourir et il fait des recommandations à son fils Salomon. C'est sur son lit des morts. Écoutez ce qu'il lui dit. « Tu traiteras avec bienveillance les fils des Barzillai, les Galadites. Et ils seront de ceux qui se nourriront de ta table, car ils ont agi de la même manière à mon égard en venant devant de moi lorsque je fouillais Absalom, ton père. » On peut retrouver ce récit dans 2 Samuel 17, 27 à 29. C'est le père Barzillai qui a posé des actes, mais une bénédiction en train d'être transmise aux générations futures. David insiste, parmi les dernières choses qu'il donne comme recommandation, il dit, souviens-toi des fils de Barzillai. C'est leur père qui a été bon, mais des choses sont promises aux générations futures. Nous connaissons 2 Samuel chapitre 9, versets 1 à 13. David accède à la royauté. Parmi les tout premiers actes qu'il pose, il cherche d'abord à récupérer l'arche parce qu'il avait besoin de régner avec la présence de Dieu. Mais bizarre, après cela directement, y a-t-il quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Et Mephibosheth, qui n'avait rien planté, qui n'avait rien semé, s'est mis à moissonner des choses pour lesquelles il n'était même pas un acteur. Mais Lamentation de Jérémie au chapitre 5, au verset 7, nous montre qu'on peut aussi se transmettre des choses négatives, même si on n'est pas lié. Quand les prophètes pleurent, écoutez ce qu'il dit, nos pères ont péché, mais ils ne sont plus. Mais c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Les pécheurs sont partis, inexistants. Mais les conséquences de leurs actions négatives nous poursuivent. Troisième principe important, c'est que Dieu est un Dieu transgénérationnel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu voit au-delà d'un individu. Il voit au-delà d'aujourd'hui. La plupart des fois, Dieu commence par un individu, mais derrière l'individu, il voit la multitude. Un jeune homme avec son épouse sont venus de Kinshasa avec un rêve de commencer quelque chose ici. Mais Dieu voyait déjà toute cette multitude qu'il y a derrière eux. Quand j'ai dit derrière, je vous dis ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas encore. Je revois encore nos premières réunions dans un petit endroit, ça faisait quoi, un restaurant? Je n'aimerais même pas mentionner un dimanche où je venais prêcher des choses qu'on avait trouvées en essayant de nettoyer la place. Qui pouvait penser qu'un jour on aura ceci? Et si après quelques années on a ceci, Dieu sait ce qu'il y aura dans 5 ans, dans 10 ans. Dans Genèse 12, que nous avons lu, versets 2 à 3, lorsqu'il appelle Abraham, il lui donne déjà une idée sur les choses qu'il va faire avec lui, mais qui iront de là de lui. Il dit au verset 2, « Je ferai de toi une grande nation. » Il a une personne devant, mais part d'une nation derrière. Et puis il lui dit, « Tu seras une source de bénédictions. » La version française courante dit, « Tu seras une source de bénédictions pour les autres. » La version parole de vie dit, « Je bénirai les autres par toi. » Il voit au-delà. C'est pour cela que j'aime ces merveilleux passages que nous avons lus dans Hébreux chapitre 7 au verset 9. De plus, Lévi qui perçoit la dîme, écoutez ce que la Bible dit, il a payé, pour ainsi dire, par Abraham. Et si vous essayez d'étudier entre Lévi et Abraham, quel écart? Il y a Abraham qui a engendré Isaac. Isaac a engendré Jacob. Jacob a engendré les 12. C'est là où il y a Lévi. Et Dieu dit les choses dont Lévi est bénéficiaire aujourd'hui. C'est Abraham qui a payé. Abraham, quand il paye la dîme, il a l'impression qu'il est fait pour lui. Mais la Bible dit au verset 10, car il était encore dans les reins de son père. Lorsque Melchisédek alla au-devant de lui, Dieu voit déjà la bénédiction qui va se transmettre jusqu'à Lévi, alors que c'est Abraham qui pose des actes aujourd'hui. C'est pourquoi, quelle est la raison d'être et le but de cet enseignement? 4 raisons. Le premier but, la première raison d'être de cet enseignement, c'est nous faire prendre conscience et augmenter notre sens des responsabilités en montrant la puissance qu'il y a derrière un seul homme. Souvent, nous pensons que le chiffre 1, c'est un chiffre d'impuissance. Faire prendre conscience et augmenter notre sens des responsabilités en montrant la puissance qu'il y a derrière un seul homme, qui, au travers de ses actes, au travers de ce qu'il fait ou ne fait pas, au travers de ce qu'il ose faire ou ne fait pas, peut faire rater des choses à bien d'autres derrière. Hébreux 11, 12 dit, c'est pourquoi d'un seul homme déjà usé des corps naquit une postérité nombreuse. Un seul homme. J'aime bien les jeux de mots. Un seul homme, et puis on parle de postérité. Écoutez, c'est que Romains chapitre 5, versets 12 et 19, qui abondent dans les mêmes sens. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Un seul à la base du péché, mais la contagion va plus loin. Et la Bible va plus loin, par les péchés, la mort s'est étendue sur tous les hommes. Mais j'aime aussi ce que le verset 19 dit, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Bizarre, désobéissance, une personne, mais rendu pécheur beaucoup, de même par l'obéissance d'un seul. Beaucoup ont été rendus juste. Toi et moi, on n'a aucune idée de la force qu'il y a en nous. La force qu'il y a dans un seul homme, une seule personne. Deuxième but et deuxième raison d'être de cet enseignement, montrer que nos actes d'aujourd'hui, bons ou mauvais, auront des répercussions sur d'autres personnes. Bon ou mauvais. Un roi 11 à 13 nous montre l'instant où Dieu est fâché et même très fâché contre Salomon à cause de sa conduite et de sa marche. Mais il freine sa colère et même l'expression de celle-ci à cause de quelqu'un. Puisque tu as agi de la sorte que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrit, je déclare. Je déchirerai plutôt le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je n'en ferai pas pendant ta vie à cause de David, ton père. Et le verset 13, je n'arracherai cependant pas tous les royaumes. Je laisserai une tribu à ton fils à cause de David, mon serviteur. Exode chapitre 20, verset 5 à 6, parlant de la malédiction et de la bénédiction qui traverse les âges, dit, tu ne te prosterneras point devant les images taillées, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième génération et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Et le verset 6, mais je fais miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Troisième but et raison de cet enseignement, faire prendre conscience que la qualité de vie de ceux de demain dépend quelquefois des actes de ceux d'aujourd'hui. Dans Ésaïe chapitre 39, versets 5 à 8, alors que le roi Ézéchias a mal agi, et Dieu lui parle des conséquences négatives qui vont arriver, ce bon roi fait montre d'un égoïsme et d'une légèreté inimaginable, qui n'est pas associé à la qualité de vie qu'il avait. Écoutez ce que la Bible dit. Alors Isaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel des armées. Voici les temps viendront où on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à aujourd'hui. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendré pour en faire des eunuques dans les palais du roi de Babylone. Écoutez le verset 8. Ézéchias répondit à Isaïe, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne, car, ajouta-t-il, il y aura paix et sécurité pendant ma vie. Le mal va arriver, il dit, heureusement, je ne serai pas là. Le fautif, c'est moi. Je suis content, je ne serai pas là. Quelle irresponsabilité. Mais j'aime aussi Nombre chapitre 25, versets 7 à 13. Nous parle d'un acte de bravoure posé par un homme. Finé. Il voit la corruption, il voit les gens se comporter mal. Finé s'élève, c'est une initiative personnelle. Mais Finé n'a aucune idée combien cet acte va changer la vie des générations. À cette vue, Finé, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, s'éleva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente. Il les perça tous les deux, l'homme d'Israël, puis la femme par les bas-ventres. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Mais non seulement ça, verset 10 à 18, l'Éternel parla à Moïse, dit, Finé, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux, et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. Oh, j'aime les versets 12. Dieu signe un décret, c'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Et verset 13, ça sera pour lui et pour sa postérité après lui, l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. L'acte des zèles, c'est lui, mais la bénédiction engage toute sa postérité après lui. Deux Rois chapitre 5, verset 27, que nous connaissons, confirme que l'acte posé par un seul peut avoir des conséquences. Géasi fait montre d'absence de contentement. Alors que le roi, plutôt le général Naaman, s'en retourne, lui il est gêné, commence, ses prophètes ne lui a rien soutiré. Vous connaissez l'histoire, il est allé par un mensonge retirer l'argent, mais quand il rentre, écoutez ce que la Bible dit. Les prophètes lui disent, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Il y aura des générations qui naîtront lépreux, mais qui n'auront rien fait. C'est leur père qui allait chercher les choses. Il dit, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité. Quatrième but et quatrième raison d'être de cet enseignement, nous ouvrir les yeux sur la valeur d'une chose négligée, l'héritage.
Quand je parle d'héritage, j'aimerais parler des biens ou des choses qui se transmettent d'une génération à une autre, des ascendants aux descendants. Et quand je parle d'héritage, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire deux choses. La première, c'est que l'héritage peut avoir plusieurs visages. L'héritage peut être matériel, palpable, tout comme il peut être immatériel, non palpable, mais pas moins important. L'héritage, ça peut être de bien des valeurs que l'on laisse, mais l'héritage, ça peut être un nom que l'on cède. Un nom. Un jeune prédicateur venu d'abord du Gabon, qui est passé par Congo-Brazzaville, il est entré au pays en avril 64, un inconnu. Et il a travaillé d'arrache-pied, de telle sorte que bientôt, quasiment 51 ans après, quand tu arrives et que tu te présentes, tu dis, je m'appelle Liliane Vernon, les portes s'ouvrent à toi. Ça, c'est un héritage. Des jeunes gens aujourd'hui en Afrique du Sud peuvent se présenter à un endroit et dire, je m'appelle Zinzi Mandela. Un héritage positif. Mais l'héritage peut aussi être négatif. Si vous étiez content de recevoir un frère et puis à la fin il dit, je suis Jean-Claude Hitler. S'il était ton voisin, tu peux changer les places. Seigneur, aide-moi à laisser un héritage. Même quand je ne laisserai rien de matériel que j'ai, que je laisse quelque chose. J'en parlerai aussi à la fin quand je montrerai combien des fois des hommes se battent et cèdent aux générations futures un nom qui pèse. Mais il arrive des fois, il y a des générations qui portent ces noms et qui dilapident la valeur, qui font des choses qui sont contraires au poids qu'on leur avait donné. Imaginez-vous que demain, on attrape un fils de Mandela, dealer, vendeur de drogue. Les gens diront, il ne porte pas bien son nom. Je prie que vous et moi, alors que nous sommes dans l'intercession et plus loin que nous puissions avoir le sens de l'héritage. Ça a toujours été mon rêve. Je ne travaille pas forcément pour ça, mais dans mon subconscient, c'est là dans Jean chapitre 14, verset 12, Christ se retrouve avec cette femme au puits. Et je suis frappé par la fierté de cette femme qui pouvait regarder Christ dans les yeux et lui dire, « Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a laissé ces puits ?» Seigneur, permets que demain, même quand je ne serai pas là, que les autres générations présentent avec fierté des choses en disant, ça c'est mon père qui m'a laissé. Il nous a laissé ce puits. Ce n'était pas un vaurien. Il nous a laissé quelque chose. Et quand je dis quelque chose, ce n'est pas forcément matériel. Ou ça peut être matériel, pourquoi pas? De Timothée 1 à 5, la Bible nous parle de l'apôtre Paul qui reconnaît la présence d'un héritage spirituel transmis au moins dans trois générations. Quand il regarde Timothée, écoutez ce qu'il lui dit. Je garde les souvenirs de la foi sincère qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs, puis dans ta mère Eunice, et maintenant j'en suis persuadé, habite en toi. Trois générations, mais des valeurs qui se reconnaissent. Combien c'est merveilleux, j'en parlerai tout à l'heure, quand le Dieu d'Abraham devient le Dieu d'Isaac, et le Dieu d'Isaac devient le Dieu de Jacob, et le Dieu de Jacob devient le Dieu de Lévi et de Manassé. Quand je ne laisserai rien de matériel à mes enfants, Seigneur, aide-moi à leur laisser un Dieu. Jérémie 35, 8 à 10, la Bible nous parle des fils des Récab, exhibant et présentant avec fierté une manière d'être et de faire laissée par leur père. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Rekab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie. Rien de matériel, mais une façon d'être et de faire. Deuxième chose que je voudrais dire par rapport à l'héritage, dans la parenthèse que j'ai ouvrir, c'est que l'héritage exige et exigera toujours qu'une génération, celle des ascendants, puisse payer les prix pour des choses pour lesquelles ce sont d'autres générations qui vont en jouir. Payer les prix. Et des fois, payer un prix fort. Donne-nous des gens qui ne travaillent pas forcément pour les présents. Donne-nous des gens qui voient demain et en regardant demain, ils ne souffrent pas de s'investir pour un demain même dans lequel ils ne seront pas partie prenante. Et sur ce plan, David est un merveilleux exemple. Dans 1 Chronique, chapitre 29, versets 1 à 2, le roi David dit à toute l'assemblée, « Mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible, mais l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'éternel Dieu. » Mais écoutez ce qu'il dit au verset 2, « J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu, pour l'or, pour ce qui sera de l'or, l'argent, pour ce qui sera de l'argent, et ici, toute autre chose. » Mais il dit, « J'ai mis toutes mes forces. » Il met toutes ses forces au présent pour une maison dans laquelle il ne va même pas participer. Mais il dit, « Je suis prêt à appauvrir mon aujourd'hui afin que les demain de mes enfants soient bien. » Alors, je reviens pour parler dans mon troisième point, les défis de la première génération. C'est là où je reviens au texte initial de Genèse chapitre 12, où Abraham est un modèle de la première génération. Il habitait les territoires durs en Chaldée, territoire vivant dans l'idolâtrie, polythéisme, mélangeant toutes sortes de dieux. Et là, Dieu vient l'appeler, le faisant quitter les connus pour l'inconnu, le faisant quitter les tangibles pour l'intangible, le faisant quitter ce qu'il maîtrisait pour ce qu'il ne maîtrisait pas. Quitte ces pays et va dans les pays que j'ai te montrerai. C'est pour cela que j'aime bien la manière dont Hébreux chapitre 11 en parle, au verset 8, nous l'avons mentionné tout à l'heure, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Mais le plus fort, c'est la fin, et qu'il partit sans savoir où il allait. Je voudrais dire un certain nombre par rapport à la première génération que vous êtes d'abord déjà vous ici à la parole du salut. Que peut-être quelqu'un est pour sa famille, mais il est possible que demain Dieu fasse de vous une première génération. Le premier défi de la première génération, c'est que ce sont des générations de la rupture. Les premières générations arrêtent un cycle et inaugurent une autre. Abraham, en disant oui, en acceptant, il casse les cycles des idolâtres, les cycles des polythéistes, et il inaugure un nouveau cycle. Les cycles de ceux qui connaissent les vrais dieux. Les cycles de ceux qui marchent avec le Créateur des cieux et de la terre. Vous et moi, des fois, on n'a aucune idée, en acceptant Christ, combien nous avons cassé des cycles. Des cycles en famille, des cycles dans les clans, des cycles dans la tribu. Nous avons fait cesser une manière d'être et de faire. J'en ai une fois parlé ici. Mon père, ils sont nés à 10. Trois hommes et plutôt trois dames qui sont toutes décédées. Et sept hommes, les six sont décédés, seul mon père est resté. Il était le cadet, donc il a vécu un peu plus longtemps. Et j'ai toujours en mémoire mes six oncles. Je les ai connus tous, tout petits. Je les voyais venir chez nous à Bandal. tous les six, ils avaient deux tares. La première tare, ils étaient ivrognes, non pas avec I minuscule, avec I majuscule. Ivrognes. Mon père, c'est un gars intelligent, directeur d'école primaire, mais il quittait chaque fois la maison à 6 heures, il revenait le plus tôt vers 19 heures, moyennement vers 21 heures. Mais de lundi à samedi, mon père revenait ivre. J'ai grandi, je l'ai toujours vu dans cet état. Les jours où il revient, normalement, on se dit soit il n'a pas d'argent, soit il y a eu un problème. Ivre. Souffrez que j'en parle, j'ai vu mes oncles, j'ai toujours en mémoire le deuxième de la famille et le troisième. Ils venaient habiter chez nous, ils étaient ivres. Je me souviens un jour, ils étaient tellement ivres qu'ils faisaient pipi en nous arrosant. Et ça, c'était mes oncles. Ils associaient des fois intelligence et cette bassesse. Mais deuxième détail, jusqu'à il y a une année, je pensais que mon père avait vaincu ça et qu'il était le seul rescapé. Et puis il y a une année et demie, il m'a appelé pour dire que lui aussi, il était comme les autres. Tous, ils ont eu des enfants extra-conjugales. Tous. Minimum 5. Je pensais que mon père avait raté. Il y a une année, un jour, il y a une année, il m'a appelé, dit Roland, je dois vous confesser. J'ai dit quoi? Il dit, appelle tes soeurs, j'ai des choses à vous dire. Vous n'êtes pas né à 5, vous êtes à 6. Quand il disait 6, je me dis peut-être, bon, quelqu'un qui doit avoir 15, 20 ans, il dit non. C'est votre soeur qui a le même âge que toi. J'ai regardé, j'ai dit, je lui donne une gifle ou je fais quoi? Je ne savais pas que le jour où j'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, le 5 novembre 85 à 9 heures, j'ai cassé ce cycle. J'ai cassé un cycle d'ivrogne. Mais j'ai cassé aussi un cycle de ceux qui reproduisent des enfants comme des cochons. Vous n'avez aucune idée des choses que vous arrêtez, mais aussi des choses qui commencent avec vous et par vous. Deuxième chose attachée au défi de la première génération, ce sont des générations qui connaissent et qui connaîtront toujours des combats intenses. Pourquoi? Parce que le diable sait ce que les premières générations représentent. Il sait que s'il maintient cette génération dans les choses vers lesquelles il veut sortir, il maintient un cycle. Certains combats que vous connaissez ne vous visent pas vous, visent tous ceux qui viennent derrière vous. Abraham, comme première génération, décide, je quitte l'idolâtrie, je ne veux plus de ces choses. Genèse 12, verset 10 à 20, la famine survient. Il est obligé de descendre en Égypte. Quand vous le voyez descendre en Égypte, mentir, ce n'est pas lui qui est visé. Le diable veut arrêter ça. Il est sorti, mais j'aimerais défier ses plans. Ceux de la première génération, il y a des combats que vous connaîtrez, comme je l'ai dit. Ce n'est pas vous que le diable vise. Le diable vise tout ce qui dépend de vous. Quand dans Genèse 16, 1 à 16, Abraham comme première génération, faute et va de côté, il va avoir Ismaël. Ce n'est pas lui qui est visé. C'est tout le plan de la bénédiction qui a derrière. Je voudrais faire comprendre à ceux de la première génération, quand vous voulez commencer des choses, vous n'avez aucune idée. Et Noéla et son épouse peuvent s'imaginer tous les instants où quand ils ont commencé, il y a des moments où ils ont voulu lâcher. Si c'est comme ça, on laisse, on retourne vers la facilité. À Kinshasa, Yamassina, si j'ai le premier culte, moi, j'ai dit seulement Noéla Lumande, 3000 personnes. Qu'on rentre simplement. Qu'il y ait des gens qui sont édifiés qui ne l'auraient pas été. Donne-nous ceux de la première génération qui luttent, qui se battent, qui disent « je ne veux pas lâcher. » Parce que dans mes reins, il y a d'autres. Si j'ai l'âge, ce n'est pas seulement ma défaite, c'est aussi la défaite des autres. C'est pourtant dans Genèse 17, verset 1, alors que les luttes sont fortes, Dieu vient dire à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Ne sois pas clopin. Il y a des choses attachées au bonheur des autres qui dépendent de toi. Plaise à Dieu que ceux qui feront partie de la première génération, qu'ils tiennent bon, qu'ils tiennent ferme. Car c'est de leur ténacité, de leur constance et de leur persévérance qui dépendra l'avenir des autres. Dans Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 1 à 3, ainsi que versets 18 à 21, la Bible nous parle de la gestation des Pierre et des Jean comme une première génération, la première génération de ceux qui ont commencé à prêcher l'Évangile. Et ils connaissent un combat. Remarquez, on les appelle au Sanhédrin. Ce n'est pas une opinion qui les arrête, c'est l'organisation de l'époque. Nous vous empêchons de ne plus prêcher par ce nom. S'ils avaient arrêté, nous ne serons pas ici. Ils ont dit, jugez vous-même si le juste devant Dieu de vous obéir plutôt que d'obéir à Dieu. Et le verset 21 dit, ils leur firent de nouvelles menaces. Et après quoi, ils reçurent des coups de fouet. S'ils avaient dit, ils arrêtent. Tout se serait arrêté pour nous. Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 27 à 29, nous parle du deuxième emprisonnement de Pierre et Jean. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogeant en ces termes, « Ne vous avons-nous pas défendu expressement d'enseigner en ces noms-là ? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donne-moi quelqu'un de la première génération qui prend conscience. » Que les luttes et les combats qu'il connaît. C'est pour que d'autres demain ne combattent pas. Troisième défi de cette première génération, c'est la génération de ceux qui sont les premiers à faire des choses. Et parce qu'ils sont les premiers à faire des choses, il y a cinq caractéristiques qui les accompagnent. La première, c'est qu'ils n'ont pas de référence. Ah, ceux qui vont demain établir Parole du Salut à Bordeaux, ils auront des références. Il y a 10 ans, quand ils sont arrivés ici, ils ne savaient pas dans quel bureau il faut aller. Quel document. Et pas de référence. Et ça vous fait tourner en rond. C'est dur d'être la première génération. Deuxième chose attachée à la première génération, s'ils n'ont pas des références, ils deviendront des références demain pour les autres. J'aime encourager ceux de la première génération. Ce n'est pas parce que tu as manqué des références que tu dois bloquer les informations que tu as eues. Moi, j'ai souffert. On dit, vous avez là. Deviens une référence pour les autres. Facilite-leur la tâche, tu dis. Moi, j'ai fait 3 ans pour avoir ça. Fais ça. Ils doivent quand même souffrir un peu, non? Troisième caractéristique, ils perdent beaucoup de temps. Parce qu'ils n'ont pas de référence. Quatrième caractéristique, être pionnier, être de ceux qui commencent n'est pas toujours facile. Mais c'est Dieu qui quelquefois nous choisit. Vous savez, quand Dieu décide que vous soyez de ceux qui commencent, c'est un honneur. Et cinquième chose d'une grande importance, ceux qui commencent ne sont pas toujours honorés en leur temps. Ils sont honorés la plupart des fois. Après. Ce n'est qu'après qu'on reconnaît leur valeur. Bon, s'ils ont le temps de vivre suffisamment longtemps, ils peuvent jouir de cela. C'est pour ça que j'aime 2 Corinthiens 12, 14, dit, ce n'est pas aux enfants d'amasser pour leurs parents, mais c'est aux parents d'amasser pour leurs enfants. On célébrera Abraham plus tard pour toutes les bonnes choses qu'il a eu à faire. Mais j'aimerais, avant que nous puissions prier, parler des 3 réalités attachées aux générations suivantes. 3 réalités. Abraham s'est battu. Abraham a posé des actes. Et les autres générations ont été bénéficiaires. La première réalité que les générations suivantes, après la première, doivent savoir, c'est que des fois, les générations suivantes n'ont aucune idée du prix payé par la première génération. Elles héritent des choses matérielles ou immatérielles qui ont beaucoup coûté à d'autres. Quand je vois les mentons du pasteur Salé le monde d'avoir de la barbe blanche, je dis que ce n'est pas lié à l'âge, au stress du début. Au stress de l'achat de la place. Ah, quand on voulait acheter cette place. Il y aura des générations qui viendront demain à cet endroit, ils vont jouir, mais ils n'auront aucune idée du prix qui a été payé. Des réunions, des coups de fil avec Kinshasa, pas toujours remplis de compréhension. Des fois, on se demande si le réseau est bon. En général, parmi les autres générations qui héritent des choses pour lesquelles la première génération a eu à travailler, il y a 3 catégories. La première est conçue de ceux qui ont été témoins du prix payé par la génération précédente. Ils les ont accompagnés, ils ont vécu avec eux, ils ont eu une idée du prix qu'ils ont eu à payer. La deuxième catégorie, de ceux qui ont été témoins, mais sans trop bien comprendre et saisir les choses, ils étaient trop jeunes. Tout à l'heure, j'ai rigolé. Bon, je sais que les jeunes gens, quand ils grandissent, ils n'aiment pas qu'on les rappelle ça. J'ai regardé celui qui était au Sainté, un homme. Et j'ai vu les bébés d'il y a 10 ans. Quasiment, je me demande si en jouant, il n'avait pas son biberon derrière. Quand j'étais là, j'ai regardé, bon, je parle un peu français, mais j'ai réfléchi en lingala. Dans ma tête, je lui disais, comment il fait mon logo? Donc il est devenu un vrai homme. Pourquoi dans ma tête, c'est 10 ans en arrière? Mais je me dis, est-ce qu'il y a 10 ans, il comprenait les enjeux? Il était là, mais il ne saisissait pas tout. La troisième catégorie, c'est ceux et celles qui n'ont pas été témoins, qui n'ont rien vu et qui n'ont rien expérimenté. J'ai lu un jour les livres d'Honoré Nguanda, Ainsi sonne les glas, et j'ai été frappé par un chapitre. Il dit, après les conférences nationales, on s'apprêta à faire des élections. Et dans leur réunion stratégique, ils voulaient revenir pour faire passer un concept, Mobutu, les pacificateurs, les libérateurs. Et dit, lors de cette réunion, quelqu'un a dit, ça c'est un concept qui n'est pas assez bleu. Il dit, Mobutu, les libérateurs, les pacificateurs, c'est pour des gens qui ont vécu les indépendances, qui ont vécu la sécession des Tchombé. Il dit, tous ceux qui sont nés après 65, il a pacifié quoi? Il a libéré quoi? Pourquoi? Parce que ces générations, ceux qui sont nés en 70, qui trouvent la paix, quand vous leur parlez des Tchombé, quand vous leur dites, on courait en forêt, ils ont difficile. Vous leur dites, moulélé. Ça ne leur dit rien. Eux, c'est l'économie. La deuxième génération, des fois, on n'a aucune idée du prix payé par la première génération. Mon père me disait une phrase que je ne comprenais pas. Il m'a dit, on ne comprend les parents que quand on devient parent. J'ai étudié soit au collège Boboto, soit à l'Athénée de la Gombelle. Ma grande sœur au lycée Bossangani, et puis un peu à l'Athénée. Rémi, il a quasiment toujours étudié au collège Boboto. Mon frère Dieudonné, plus tard Christophe, toujours à l'Athénée. C'est quand j'ai eu ma première fille un jour, comme ça, comme une révélation. Je dis, mais mon père, depuis que je le connais, il était enseignant. Quand j'avais 7, 8 ans, il est devenu directeur d'école primaire jusqu'à aujourd'hui. Je connais son salaire actuel, c'est 56 000 francs congolais, moins de 100 dollars. Alors j'ai commencé à faire de la gymnastique. Bon, supposons qu'à une époque, on payait bien. Si on payait bien les meilleurs salaires où il a pu arriver, ça peut aller à combien? Dans mes projections, je suis allé à 250 dollars. Je dis, mais comment on mangeait? Et comment nous tous on étudiait? Non pas à l'école derrière les quartiers où j'ai grandi, mais dans d'aussi bonnes écoles. Je suis allé les voir un jour. Je dis, papa, comment tu as fait? Il s'est mis à pleurer. Il m'a dit, j'étais directeur d'école primaire, mais je faisais les lavandiers pour arrondir les mois, et puis je faisais aussi les répétiteurs à 5 endroits. Et c'est ce jour-là, quand il parlait, j'ai eu comme un flashback, quelque chose qui m'est revenu. Je revois toujours. J'avais 10 ans, j'étudiais l'Athénée de Kalina et j'allais pour demander de l'argent à mon père et puis j'ai surpris une conversation. Ma mère s'appelle Cécile. Mon père, son prénom c'est Henri et mon père qui disait, Cécile, si Roland doit utiliser l'abonnement scolaire, il y avait des bus scolaires à l'époque. Il faudra que durant tous ces mois, j'aille au travail à pied. Ça m'est revenu. Et j'oublie jamais, 3 ou 4 jours après, à l'époque, il y avait les lignes des bus. Ça allait de la ligne 1 jusqu'à la ligne 10. Et tous ceux qui faisaient les pieds, on disait qu'ils prenaient la ligne 11. Et alors que j'étais dans le bus scolaire, on a vu mon père vers Utex Afrique. Et un des amis a dit, Roland, regarde ton père, il est dans la ligne 11. Et ce n'est que ce jour-là, quand j'avais 45 ans, je suis resté là devant mon père. Je me suis même après, je lui ai dit, papa, est-ce que je peux t'embrasser? J'ai pensé, j'ai dit, il a pris la ligne 11 pour que moi je prenne la ligne 10. Des fois, les générations qui viennent après n'ont aucune idée du prix payé. Du grand prix. En général, seuls ceux qui ont été témoins ont un respect et une grande considération pour la génération qui a travaillé pour eux. Je m'imagine Isaac devait avoir beaucoup de respect pour Abraham. Certes, il n'est pas né quand Dieu l'a envoyé dans l'aventure, mais il devait avoir, les commentateurs disent, entre 15 et 18 ans, les jours où son père lui a dit, « Petit, on va aller faire un tour. » Et quand ils sont allés faire un tour, arrivant à un endroit, il dit, « Où est-ce qu'on va ?» Il dit, « C'est pour un sacrifice. » Mais il dit, « Je vois les bois. » Mais où est l'offrande ? Son père lui a dit, « L'éternel pouvoir. » Et arrivé plus loin, il a vu son père le ligoter, dit « Papa, quel jeu encore ça ?» Jusqu'au moment où il voit son père prendre un couteau. Et il a été témoin, il a entendu avec son père la voix de Dieu. Et nous avons lu ces promesses merveilleuses que Dieu a eu à faire à Abraham. Et je crois, Isaac a entendu ça. Et vous savez, certaines personnes... Quand la deuxième génération vous accompagne dans certaines expériences, elle vous respecte plus. Elle est témoin. des grandes promesses. Dieu se décide de s'engager vis-à-vis. Nous avons lu Genèse 22. L'ange de l'Éternel appelle une seconde fois Abraham des cieux. Je le jure par moi-même. Parce que tu as fait cela que tu n'as pas refusé ton fils, le seul. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. L'obéissance, c'est lui, mais la bénédiction va contaminer sa postérité. Verset 18, toutes les nations de la terre seront bénies en toi parce que tu as obéi à ma voix. Seigneur, aide-moi à obéir à des choses de telle sorte que les générations qui viennent en soient bénéficiaires. Et Isaac a vu Dieu jurer. Et quand plus tard Isaac voyait des choses, vous pouvez dire, je ne les ai pas par moi-même, je les ai parce que j'ai été témoin. Il faut respecter cet homme. Donne-nous des Isaac qui respectent les Abraham. Ceux dont nous sommes bénéficiaires, ils ont payé le prix. Ceux qui ont été témoins sans trop bien comprendre. N'ont pas beaucoup de respect. Quand on célèbre la fin de la guerre 39-45, quand on parle d'Hitler, à vous qui êtes ici, c'est une notion lointaine. Mais ceux qui ont été près des chambres à gaz, ceux qui ont connu cela savent de quoi il s'agit. C'est pour cela que quelquefois le devoir de mémoire est d'une grande importance. Il y a une culture que j'aime beaucoup aux États-Unis. C'est le respect qu'ils ont des vétérans. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que la liberté dont ils sont jouisseurs aujourd'hui, c'est cette génération qui a payé le prix. Certains sont estropiés, d'autres manquent un œil. J'aime quand je vais aux États-Unis, quand vous êtes dans un supermarché, les vétérans ont la priorité. Ils payent moitié prix dans les restaurants. Ils arrivent à un endroit, on les laisse passer en premier. Ils ont des casquettes assez spéciales. Pourquoi ? Parce que les générations actuelles reconnaissent ce dont nous sommes bénéficiaires. Ils ont payé les grands prix. Donne-nous la deuxième génération. Si Dieu fait que vous soyez une deuxième génération, essayez de vous y représenter. Qu'est-ce qu'ils ont eu à faire? Deuxième réalité attachée aux autres générations, c'est que la deuxième génération ainsi que les autres qui suivront ont un double défi. Celui de protéger ce qu'ils ont reçu ou celui de dilapider. Combien de fois les deuxièmes générations et les autres générations reçoivent des choses. Certains arrosent et multiplient cela. Je bénis Dieu quand je vois quelqu'un comme Joel Osteen. Son père s'est battu plusieurs années. Et puis il a laissé une œuvre et puis le fils vient récupérer. Il amplifie cela. Chez nous au pays, c'est... La spécialité, c'est dilapider. Donc, on meurt. Ceux qui vont venir après, ils vendent telle chose, plus rien ne reste. La deuxième génération, comme je l'ai dit, les suivantes ont un double défi, celui de protéger ce qu'ils ont reçu et de transmettre aussi à d'autres. L'un des textes que j'aime beaucoup en rapport avec ça, c'est lorsque Jacob est en train de prier pour les enfants de Joseph. La troisième génération après Abraham et Isaac est en train de transmettre des choses à la cinquième génération. Genèse 48, verset 15 à 7. Jacob bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, qui est le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ces jours, qui est l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénis ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Si vous êtes la deuxième génération ou l'autre, et si jamais Dieu fait que demain vous soyez d'une autre génération, qu'allez-vous faire de ce que vous avez hérité? Dans 1 Roi, chapitre 21, versets 1 à 3, la Bible nous parle d'un homme fantastique. Et je prie qu'il y en ait des centaines et des milliers dans nos églises. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jizréel avait une vigne à Jizréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth, « Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. » J'aime le verset 3. Mais Naboth répondit à Akab, « Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. » Ça, c'est la sueur de mes pères. Je ne peux pas les dilapider ainsi. Ils ont payé un prix. Et je ne peux pas les jeter à la poubelle. Que des générations qui viennent, qui prennent ce qui les ont précédés, ont gagné, ils les jettent quasiment. L'un des textes qui me fait beaucoup mal dans la parole de Dieu, je voudrais lire cela avec vous avant de conclure tout à l'heure, c'est le premier livre des rois. Chaque fois que je lis ce passage, c'est un peu avec beaucoup de tristesse, et même une très grande tristesse. Un roi, chapitre 14, verset 25, à 27. La cinquième année du règne de Roboam, Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel, les trésors de la maison du roi. Il prit tout. Il prit tous les boucliers d'or que Salomon avait fait. Le roi Roboam fit à leur place des boucliers d'airain. Il les remit aux soins des chefs de coureurs qui gardaient l'entrée de la maison du roi. David avait dit pour tout ce qui sera de la construction du temple, j'ai mis toutes mes forces pour l'or, ce qui sera de l'or. Et les commentateurs disent, dans le surplus qui est resté, Salomon a fait faire des boucliers. Et quand Salomon meurt, Roboam prend la place. Il est attaqué par ses rois d'Égypte. Il prend cet héritage. Ça part. C'est pourquoi David s'est battu. C'est pourquoi Salomon a dit non, je dois l'honorer. Qu'est-ce que je fais de ce que j'ai hérité? Que vais-je faire demain de ce que je vais hériter? 40 ans, 50 ans, nous partirons. Que feront les générations qui vont venir de cette merveilleuse œuvre, sûrement plus grande? Va-t-on garder les standings, les standards, ou va-t-on retomber? Troisième et dernière réalité, je termine par là. Le troisième défi des autres générations, c'est le défi de la pratique de la loi de l'honneur. La deuxième génération et les générations qui suivent ont l'obligation de pratiquer la loi de l'honneur. C'est-à-dire dire du bien de ceux qui nous ont précédés. Reconnaître ceux qu'ils ont eu à faire et ne jamais effacer leur mémoire. Combien de fois les deuxièmes générations et les troisièmes qui viennent, ils font table rase. Ils vivent comme si tout a commencé avec eux. Mais ils ne savent pas qu'ils sont assis sur la sueur des autres générations, sur leurs larmes. Dans Malachie, chapitre 1, verset 6, Dieu dit, « Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû ?» Et le mot « père » en hébreu veut dire « source », d'où les choses viennent. Si c'est de moi que ces choses sont venues, où est l'honneur qui m'est dû ? Romains 13, verset 7, « Rendez à tout ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt. Le tribut à qui vous devez le tribut. la crainte à qui vous devez la crainte, mais l'apôtre termine en disant l'honneur à qui vous devez l'honneur. La version française courante dit même payer à chacun ce que vous lui devez. Les deuxièmes et les troisièmes générations, vous avez une dette, c'est de rendre honneur. C'est de célébrer les générations suivantes. Comment honorer et comment célébrer ces autres générations? Quatre petites choses. La première, en étant et en faisant ce qu'ils auraient aimé. En étant et en faisant ce qu'ils auraient aimé. Deuxième des choses, en parlant d'eux en bien. Il y a des générations, quand ils héritent, ils deviennent muets par rapport aux générations qui les ont précédées. Ils disent rien. Troisièmement, en maintenant leur mémoire vivant malgré leur absence physique. Une femme samaritaine a dit, notre père Jacob nous a donné ça. Quatrièmement, en se reconnaissant d'eux. Jean 8, 33, les Israélites disent à Jésus, nous sommes la postérité d'Abraham. Jean 8, 39, ils disent, notre père, c'est Abraham. Jean 8, 53, il est challenge, es-tu plus grand que notre père, Abraham. Je termine en donnant ce petit conseil, en quelques petits points. Beaucoup ne célèbrent pas, mais surtout beaucoup dilapident l'héritage qu'ils ont reçu pour certaines raisons. La première, ils ne connaissent pas la valeur de ce qu'ils reçoivent en héritage. Deuxièmement, ils ne connaissent pas l'histoire cachée derrière l'héritage. Le feu Jacques-André Vernon prêcha un jour, il dit, celui qui transmet un héritage sans transmettre l'histoire, met son héritage en danger. Quand on transmet, il faut transmettre aussi l'histoire. Et il relatait, dit un homme, avait une grande concession, et avant qu'il ne meure, il dit à ses enfants, je ne voudrais jamais que vous puissiez vendre cette concession. Pourquoi vous ne le savez pas très bien, votre mère n'est pas ma première femme. J'étais marié avec une femme, 6 ans sans qu'on ait des enfants. Elle est morte lors d'un accident de travail. Et son entreprise m'a payé cet argent. Et c'est avec cet argent que j'ai acheté cette parcelle. Pour moi, c'est le sang de ma femme. Et en les regardant dans les yeux, il dit, celui qui vendra cette parcelle vendra le sang de ma femme. Pourquoi ces générations ont eu un respect? Parce qu'ils connaissaient l'histoire derrière. S'ils ne connaissent pas l'histoire, vous leur donnez, ils feront comme les Kunato, Chahé Ango. Vendons cela, que chacun ait sa part. Quand vous laissez l'œuvre de Dieu, Noël a relaté l'histoire. Je ne sais pas comment Dieu va te conduire dans 5 ans, dans 10 ans, Dieu te donnera. Laisse l'historique. Ceux qui viennent, qui héritent quelque chose de grand, ils n'ont aucune idée du prix payé. C'est pour ça, vous les jeunes gens qui, tu prêches 2 ou 3 fois, les gens t'apprécient, j'ai l'onction, la profondeur. Va montrer ton onction en commençant. Et le monde, là, ils sont des vieux prophètes finis. Il faut que c'est répété. Vous savez, les meilleurs prédicateurs sont ceux qui prêchent de temps en temps. te fait passer aujourd'hui, puis 6 mois après. Le fait pasteur Vernon me disait, s'il y a des gens qui se trouvent trop ambitieux, Roland, ils estiment qu'ils prêchent mieux que moi et toi, aligne les 8 dimanches d'affilée. Tu verras au 4e dimanche, il n'y a plus rien à dire. Dites un amen de vainqueur. Un amen élastique. Parce qu'il n'y a plus rien à dire. Ils ne connaissent pas l'histoire. Et parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire, ils manquent et ils manqueront de respect. J'aimerais ce soir nous inviter à nous lever tous, s'il vous plaît. Et je voudrais que toi et moi, nous puissions d'abord prier pour nous-mêmes dans 3 directions. Je ne sais pas comment la chorale va nous accompagner, mais j'aimerais que toi et moi, nous puissions prier dans 3 directions. La première dit au Seigneur, je veux laisser un héritage. J'aimerais influencer les générations futures. Je voudrais, comme Abraham, prendre des risques, moi, afin que les générations futures puissent en être bénéficiaires. Je voudrais que les générations futures, comme la femme samaritaine, présentent des trophées en disant, ça c'est notre père qui nous a laissés. Et quand je parle ainsi, je vois en famille, biologique, physique, je vois dans l'œuvre de Dieu, je vois dans les ministères. La deuxième prière que je voudrais que toi et moi nous fassions, Seigneur, donne-moi une deuxième génération et les générations futures responsables. Papa, je ne veux pas que ce qui m'a coûté, que les autres dilapident cela. Je n'aimerais pas comme Roboam, que les boucliers d'or, fruit du sacrifice de David, le bouclier d'or, fruit du travail de Salomon, puisse être emmené en Égypte. Seigneur, donne-moi des fils comme Naboth, qui reconnaîtront la valeur de ce que je leur ai laissé et qui diront que Dieu me garde de traiter avec légèreté ce que mes pères m'ont donné. Mais la dernière des choses, je pense que si on ne le fait pas, ça serait incomplet. Es-tu un héritier ce soir? As-tu hérité des choses? Bénis Dieu pour les gens qui ont été de la première génération, qui ont travaillé pour toi. Bénis Dieu pour les prix qu'ils ont eu à payer en famille, dans les ministères. Et puis après, j'ai conduit dans les 2 autres directions avant qu'on finisse. Ce soir, je te dis merci pour mon père, Papa Henri. Merci pour cet homme qui, en 61, a pris le risque de quitter Wimbonyama, au fin fond du village, pour venir chercher du travail à Kinshasa. Merci pour cet homme qui a frayé mon chemin. Merci pour le sens des responsabilités que tu lui as donné à l'époque de me mettre dans les écoles les meilleures alors que ses moyens n'étaient pas proportionnels aux écoles où il m'est placé. Merci pour la ligne 11 qu'il a eu à prendre enfin que moi j'emprunte la 10e. Merci pour ce travail des répétiteurs, tout directeur qu'il était. Il a fait des corvées abaissantes enfin que je sois. Je te bénis. Je te bénis pour Jacques-André Vernon qui a pris le risque en 64 de venir au Congo. Je te bénis pour ces merveilleux aînés que tu m'as donnés à l'église de la Borne. Merci pour leur investissement dans ma vie. Je reconnais ce soir que je ne suis pas un self-made man. Je suis le fruit des sacrifices d'autres. Je suis un Isaac. Je suis un Jacob. Je suis un Lévi. La dîme dont je suis bénéficiaire aujourd'hui, c'est Abraham qui l'a payé. Mais Seigneur, je veux aussi laisser un héritage. Seigneur, j'ai 51 ans aujourd'hui. Les années de force, il y en a plus derrière moi que devant. Combien d'années de force, de vigueur me reste-t-il? Je veux laisser un héritage. Au début de cette année, tu m'as dit, Roland, j'aimerais dans les 3 ans qui viennent que tu me fabriques 5 autres Roland Dallo. Je dis, Seigneur, je prendrai le temps pour les fabriquer. Tu m'as dit, influence 5 jeunes gens. Reproduis-toi en eux. Donne-leur du temps, Seigneur. Je voudrais un jour, quand je partirai de cette terre, que les générations futures soient fières de moi. Je ne voudrais pas laisser à mes filles un nom dont elles auront honte. J'aimerais leur laisser un nom pour lesquels elles n'auront pas baissé la tête. J'aimerais leur laisser un héritage. J'aimerais laisser un bâtiment à Philadelphie. J'aimerais un jour, si tu permets, que je ne sois plus le pasteur titulaire qui ait un bâtiment qui va survivre à ma personne. Je voudrais mourir comme les patriarches. L'abbé dit, ils sont morts rassasiés de jour, rassasiés de gloire. Je voudrais comme toi, et c'est Esaïe qui en parle. L'abbé dit qu'après avoir souffert, tu contempleras de ton regard l'œuvre de ton âme. Et l'œuvre de Dieu prospérera entre tes mains.
Sans toi, je ne peux vivre.
Je le sens dans mon cœur. Élève ta voix, commence à dire merci à Dieu pour des gens qui ont payé un prix pour toi. Pour que tu étudies, pour que tu arrives ici. Une maman qui s'est sacrifiée. Commence à bénir Dieu en disant, moi, j'ai tâtonné en arrivant ici, mais mes enfants ne passeront pas par le même chemin. Des choses que j'ai connues dans cette nation, mes enfants ne les connaîtront pas. Mes enfants auront un autre parcours. Commence à bénir tes enfants. Dis, ils passeront par des chemins différents. Parce que toi, dans une génération, la première, tu as payé le prix. J'ai fait les sales boulots, j'ai fait les plongeurs, j'ai fait les gardiens, j'ai fait les vigiles. Mes enfants ne le feront pas. Abraham a vécu sous des tentes. Abraham a été nomade parce qu'il était de la première génération. Mais ses enfants sont devenus des sédentaires, habitant un territoire qui leur appartenait.
J'ai tant besoin de toi. Et moi,
je suis perdu sans toi.
Je suis perdu sans toi.
Et moi, et moi.
J'ai tant besoin de toi.
Nous allons prier dans l'avant-dernière direction. Je prie qu'on élève tous nos mains. Qu'il est bon qu'il y ait ceux de la première génération qui, comme les maîtres, peuvent souhaiter de bonnes choses aux générations suivantes. J'aime ce que le maître a dit. Ceux qui croiront en moi, ils feront des œuvres et ils en feront de plus grandes. Qu'il est bon que les premières générations souhaitent que les autres générations les surpassent, fassent mieux que eux, fassent plus d'exploits. Pouvons-nous bénir ceux de générations qui viennent, nos enfants physiques, nos enfants spirituels. Pouvons-nous, comme des prophètes, déclarer qu'ils iront plus loin que nous, ils accompliront plus d'exploits que nous. Déclarons-le. Là où nous nous sommes arrêtés à avoir une maîtrise, ils auront des doctorats.
Ce message vous a été proposé par l'église évangélique Parole du Salut, maison des rafraîchissements, située au 8 rue Jules Gued, 91 860 Épinay-sous-Sénart. Que Dieu vous bénisse.